franceinter.fr.
À la une aujourd'hui, les équipes du réseau DeepMind, la filiale de Google dédiée à l'intelligence artificielle, et des chercheurs de l'université d'Oxford qui viennent encore de faire une démonstration impressionnante des capacités justement de l'intelligence artificielle de demain. En début de semaine, ils dévoilaient le programme VLAS qui est capable de lire sur les lèvres avec une précision plus importante que celle d'un expert humain. Jean-Paul Delay, vous êtes avec nous pour commenter cette publication. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille pour le laboratoire Crystal. C'est le centre de recherche en informatique signal et automatique de Lille. Donc après la victoire de DeepMind contre le champion du monde de jeu de Go, hein, il y a quelques mois, on en avait abondamment parlé. Maintenant, donc cette annonce, l'intelligence artificielle qui arrive à lire sur les lèvres, qu'est-ce que vous pensez de cette avancée qui semble impressionnante?
C'est la suite des progrès qu'on arrive à faire grâce au réseau profond, au réseau de neurones profonds. Et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et remarquable, puisque les résultats que le réseau obtient sont meilleurs que ceux que les spécialistes de lecture sur les lèvres. Donc c'est ça qui est remarquable, c'est qu'une fois de plus, on arrive à créer un système informatique qui bat l'être humain, y compris en gros, on va dire, les professionnels de ce type de lecture.
Alors, comment expliquer simplement ce que sont ces réseaux de neurones profonds, finalement? Parce que c'est toujours eux qui sont à la base de ces avancées.
Alors oui, l'idée est assez simple. Bon, d'abord, ces réseaux font de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on leur donne un très grand nombre de données. Et souvent, les données qu'on leur donne à traiter ont un côté image ou moins graphe. Et il s'agit en gros de reconnaître des formes communes ou des formes approchantes dans ces graphes. Et la notion de réseau de neurones profonds, c'est des réseaux qui ont plusieurs couches foulées. D'une certaine façon, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le cerveau humain. Il n'y a pas une liaison directe entre les données et les résultats. Il y a un certain nombre de contacts intermédiaires et de couches intermédiaires de neurones qui se parlent les unes aux autres et qui correspondent en fait sur un plan de traitement de l'information à des informations de plus en plus abstraites. Le premier niveau va, par exemple, dans le cas de traitement d'image, repérer des droites ou des arcs de cercle ou des points. Le second niveau va élaborer des concepts légèrement plus abstraits, par exemple des lettres, quand il s'agit de reconnaissance de la lecture, etc. Et donc cette hiérarchie de niveaux, ou plutôt cette succession de niveaux, permet en fait d'avoir un système de classification, puisque le réseau de neurones va faire une sorte de classification, va établir une sorte de grammaire sur les objets qu'on lui présente, qui va être beaucoup plus subtil que s'il n'y avait qu'un seul niveau. Et d'ailleurs, il avait été démontré il y a très longtemps, que quand il n'y a qu'un seul niveau, certaines choses très élémentaires, comme par exemple la programmation d'un XOR, d'un OU exclusif, ne sont pas possibles. Donc c'est une nécessité absolue sur un plan logique d'avoir plusieurs niveaux, et quand on sait les mettre en œuvre et quand on sait mettre en place les systèmes d'apprentissage, on arrive à des choses étonnantes.
Alors là, c'est 5000 heures d'émission de la BBC qui ont servi de base d'apprentissage à ce réseau de neurones. En fait, faire un réseau de neurones, c'est apprendre un logiciel à apprendre?
Alors les réseaux de neurones, bien manipuler les réseaux de neurones, c'est ça, c'est leur apprendre à apprendre. Maintenant, une fois qu'ils ont été conçus, ils apprennent tout seuls. C'est ça le principe. Et ce qui dans l'exploit ou dans le papier qui vient d'être publié est décrit et qui est nouveau, c'est qu'en fait, on n'a pas demandé à des sujets humains de se mettre devant une caméra, dans un éclairage bien fixé, etc., et puis de prononcer des phrases, etc., que l'apprentissage se passe par ce biais-là. On a utilisé des morceaux des émissions de la BBC, uniquement à partir de ces données visuelles et sonores qui sont quand même un petit peu brutes, qui sont pas forcément avec des personnes différentes, avec des éclairages différents, avec des contextes différents, on a réussi à faire cet apprentissage. Donc c'est quelque chose un petit peu de plus brut, de plus proche des applications qu'on peut avoir envie de mener avec des neurones dans ce cadre de la reconnaissance aussi bien de la parole sur les lèvres que de la parole parlée, puisqu'en fait les deux aspects ont été traités en même temps.
Jacques Testard, il y a une entrée sur l'intelligence artificielle justement dans votre livre. Vous écrivez « Intelligence artificielle, la machine ignore l'absurdité de son existence. C'est ce qui rend redoutable ses jugements et pitoyable le respect que certains lui portent. » Allez, commentaire, s'il vous plaît.
Oh ben, ça se passe de commentaires. Non, mais c'est vrai que la machine fait des choses merveilleuses qu'éventuellement on pouvait ne pas prévoir. Mais c'est pas tellement surprenant. La machine est efficace, elle est beaucoup plus que l'homme dans plein d'activités. Mais l'homme n'est pas une machine. Et tant que la machine ne sera pas capable d'être amoureuse, d'avoir une véritable intuition, de recevoir des émotions... Je pense que ça reste qu'une machine. Et j'espère que ça restera toujours comme ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui pensent que la machine est plus forte que l'humanité. Elle peut être plus forte dans certaines tâches humaines, dans beaucoup de tâches humaines.
Là, on a un exemple où la machine est plus forte.
Il y en a plein d'autres, le jeu de boules, les machins. Ouais. Mais tout ça, c'est jamais que des activités, on peut dire, mesurables. Et finalement, c'est pas surprenant. Ce serait dommage que la machine ne soit pas arrivée à recopier et à faire mieux que l'homme, qui est une bête imparfaite. Mais il n'empêche que moi, je tiens à l'humanité.
Là, justement, Jean-Paul Delahaye, les humains qui ont été testés contre ces machines obtenaient 12% de réussite, 49% pour la machine. Comment vous expliquez que ce soit si faible pour l'homme ?
C'est un petit peu difficile à expliquer, mais je ne sais pas expliquer pourquoi c'est si faible pour l'homme. Peut-être que l'homme n'est vraiment pas fait pour lire sur les lèvres, en fait. C'est le type d'information, parce qu'en fait, le cerveau humain, je ne vous l'apprends pas, est spécialisé. On sait bien reconnaître les visages, etc. On sait bien entendre les sons et les distinguer, etc. Surtout quand on a appris une langue et qu'on la maîtrise bien. Mais peut-être que rien dans notre cerveau nous prédestine à bien lire sur les lèvres.
Jacques Testard, il a peut-être un élément de réponse là-dessus.
Non, je pense que c'est des Français qui regardaient la BBC.
Non, par contre, on peut parler de la méthode du test. C'était basé sur un seul mot. Un homme a besoin d'un contexte, peut-être, pour lire sur les lèvres. Il ne peut pas lire un mot tout seul, isolé.
Ah oui, alors le test a été organisé d'une manière qui défavorise un petit peu les humains, parce que quand un sourd lit la parole sur les lèvres de la personne qui est en face de lui, eh bien il a tout un contexte il sait qu'on est en train de parler de cuisine ou je ne sais pas quoi, ou de cinéma, et ce contexte évidemment l'aide à deviner et à reconstituer les informations qui lui manquent. Et quand on demande même à un sourd de reconnaître un seul mot, donc une séquence de quelques secondes, de 2 ou 3 secondes, il va avoir du mal parce qu'il ne va pas avoir ce contexte-là. Et donc, aujourd'hui, les machines, de cette façon, exploitent assez mal le contexte ou ne savent pas très bien exploiter le contexte, ou alors il faudrait compliquer un peu le système. Les humains, eux, l'exploitent naturellement, et donc le test qu'on a fait pour les comparer, où l'homme a gagné, était un petit peu biaisé en faveur des machines, puisque on empêchait les humains de bien bénéficier des capacités qu'ils ont.
Merci en tout cas Jean-Paul Delahaye pour vos commentaires sur cette nouvelle victoire de la machine face à l'homme. Encore un coup de Google. Merci Axel, on se retrouve lundi.
C'est ça, à lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les pollinisateurs font économiser entre 2 et 5 milliards d'euros par an à la France. Les abeilles, les bourdons, les insectes et les oiseaux, par leur simple butinage, participent à la reproduction de plus de 72% des espèces végétales cultivées sur notre territoire. Ces chiffres, publiés hier dans un rapport du ministère de l'Environnement, montrent encore une fois à quel point la protection et le respect des pollinisateurs est crucial pour l'avenir. Le rapport préconise que cette estimation concerne seulement la production agricole et que l'apport des pollinisateurs pour la flore et la faune est très certainement bien plus grand encore, voire inestimable. Vous commentez ce chiffre, Marie-Monique Robin, qui vous parle évidemment.
Oui, bien sûr, mais je trouve triste de ramener ça aussi à la valeur financière, c'est toujours pareil. Ouais. Pour les abeilles, une fois j'étais aux États-Unis, moi je m'émeuvais du fait que les abeilles, vous savez, sont en train de s'effondrer. On m'avait dit oui, c'est très grave parce que ça, elles fournissent des services qui sont évalués à 14 milliards de dollars. Bon, voilà. Mais je suis d'accord avec Jacques. C'est bien plus que ça, les abeilles.
Justement, c'est ce que dit aussi ce rapport, c'est l'aspect inestimable aussi de la pollinisation.
Alors, c'est peut-être une manière de sensibiliser, de dire la valeur marchande.
Allez, dans le reste de l'actualité également, c'est certainement un bug informatique qui est à l'origine du crash du module européen Schiaparelli sur Mars. D'après les données repérées et publiées cette semaine par l'ESA, tout allait bien pour le module dans les premières phases de sa descente, jusqu'à ce que les mesures des vitesses de rotation du robot aboutissent à un résultat erroné. C'est donc une erreur de calcul sur l'altitude qui a déclenché le largage du parachute et l'activation des rétrofusées, alors qu'il restait encore plus de 3 km avant la surface. La suite, c'est donc une chute libre sans aucun moyen de freiner.
Voilà et un problème impact... quand on fait confiance aux machines.
Oui, c'est pour vous toutes ces infos, Jacques Testard. Voilà, impact final au sol quand même à une vitesse de 540 km/h. Et puis on termine avec une idée de sortie scientifique pour ce week-end, le Muséum National d'Histoire Naturelle qui accueille les 20 ans de la société de production de documentaires Gédéon avec un festival de films documentaires. C'est demain samedi et dimanche. Vous pourrez revoir les meilleurs films produits pendant 20 ans et puis assister à la projection exceptionnelle du film Solar Impulse, le tour du monde impossible. Toutes les infos sont sur le site lesexplorateursfontleurcinema.com. C'est tout attaché et c'est en lien sur le Facebook de l'émission.